Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons avoir un dernier sermon sur le baptême, sermon qui est important sur la nécessité du baptême et sur ce qui peut remplacer le baptême d'eau. La nécessité du baptême, notre Seigneur déclare en effet dans l'Évangile, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous remarquerez qu'il n'y a pas parallélisme. Pour être sauvé, il faut la foi et le baptême. Pour être condamné, il faut que manque la foi. Notre Seigneur nous montre par là que le baptême, bien sûr, il le faut pour être sauvé, mais si on ne l'a pas, on n'est pas pour autant condamné, c'est-à-dire qu'il y a en réalité plusieurs manières d'entrer dans l'intimité de la très sainte Trinité, de devenir temple du Saint-Esprit. Ce sont le baptême d'eau, dont notre Seigneur parle, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, et le baptême du sang et le baptême du Saint-Esprit, dont il laisse ouverte la possibilité. Il est important de parler de ce baptême, de ces deux autres baptêmes que le baptême d'eau, à cause du malheur des temps. Vous n'en êtes pas peut-être encore trop là d'avoir à accompagner un mourant qui n'est pas baptisé, et encore même là vous pouvez le baptiser. Peut-être y a-t-il des non-baptisés qui m'écoutent, qui seront heureux, peut-être au moment de la mort, de savoir qu'il existe le baptême de désir, je vais vous expliquer les termes. Ou bien, comme Joseph Fadel, par exemple, qui a mis très longtemps à recevoir le baptême d'eau, et qui, très probablement, avait déjà le baptême de désir. Il est important, donc, vu le malheur des temps, de parler de cela. Et puis, saint Thomas d'Aquin pose ici des principes, enfin, c'est pas lui qui les pose, c'est l'Évangile, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Disons que saint Thomas d'Aquin nous expose les principes posés par notre Seigneur Jésus-Christ et que nous retrouverons quand il s'agira de la Sainte Eucharistie. L'avantage de les étudier au moment du baptême, c'est que ce sont des choses relativement connues et donc faciles à comprendre, est facile à admettre, alors qu'au moment de la Sainte Eucharistie, c'est peut-être un petit peu plus difficile, et l'éclairage que nous aurons donné dans le présent sermon vous sera très utile. Voici le raisonnement de saint Thomas d'Aquin. Il nous dit que le baptême d'eau tire son efficacité de la passion du Christ. Et la passion du Christ tire son efficacité du Saint-Esprit. Le baptême d'eau configure celui qui est baptisé à la passion du Christ. Et c'est cela qui le fait entrer dans l'amitié de Dieu. Disons que le baptême d'eau le met au pied de la croix, le lave dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un pur instrument, le baptême, hein, c'est une cause instrumentale. Cet instrument, ce signe, nous met en union avec la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elle-même, la passion est un instrument. Les pharisiens qui étaient au pied de la croix n'ont tiré aucun profit d'avoir assisté à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne profitaient pas de l'instrument pour se laisser pénétrer par la grâce du Saint-Esprit. Ce qui fait que nous avons un ordre dans les causes. Tout d'abord, tout près de nous, le sacrement avec l'eau, lequel reçoit son efficacité de la passion, laquelle reçoit son efficacité du Saint-Esprit, de Dieu même, et donc du Saint-Esprit. Or, c'est à la suite du raisonnement de saint Thomas d'Aquin, qui ne fait là qu'exposer, encore une fois, la doctrine de l'Église. Je ne vous expose pas une opinion qui serait celle de saint Thomas d'Aquin, aussi sérieuse soit-elle. Je vous expose la doctrine de l'Église que vous trouverez dans tous les catéchismes et que saint Thomas d'Aquin met en lumière et dont il donne les raisons. Donc, le Saint-Esprit, dans sa sagesse, a institué les sacrements, mais il peut agir directement. Il a de bonnes raisons pour cela. Agir directement, soit parce que l'intéressé ne peut pas recevoir le baptême. Par exemple, ces soldats qui accompagnaient les chrétiens au martyr et qui, voyant la foi et la joie des martyrs, étaient tout d'un coup pénétrés par le Saint-Esprit, tout d'un coup les yeux de leur âme s'ouvraient aux réalités de la foi, ils se joignaient aux martyrs, de soldats qu'ils étaient pour les accompagner au supplice, ils se joignaient aux martyrs et on les décapitait en même temps que les autres martyrs. Il est évident qu'ils ne pouvaient pas recevoir le baptême d'eau. On a comme cela 10 000 soldats crucifiés à qui les anges viennent plus ou moins faire le catéchisme, en tout cas qu'ils accompagnent par leur cantique jusqu'à ce que ces crucifiés, qui étaient tous païens, enfin pas les premiers, les 1 000 premiers étaient chrétiens, mais les 9 000 autres étaient païens. Quand ils ont vu la joie des chrétiens crucifiés, ils ont refusé de s'associer au crime et ils ont été crucifiés à leur tour. C'est ainsi qu'ils ont été sauvés. Il peut y avoir une autre raison également, l'impossibilité du baptême d'eau, parce que on est dans une région où ça n'est pas possible, ou parce qu'on est seul à l'hôpital, ou que sais-je encore. Et donc, le Saint-Esprit, dans sa sagesse, permet des situations comme cela pour nous faire comprendre. Il veut nous faire comprendre ce qu'il fait dans le baptême. Alors, ce qu'il fait dans le baptême, c'est d'intervenir. Et donc, il peut, sans le baptême d'eau, soit inspirer la générosité du martyr, et saint Thomas nous dit, c'est une autre manière de se configurer à la passion de Jésus-Christ, de devenir semblable à Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire que le Saint-Esprit non seulement inspire la foi, non seulement il inspire le mépris du monde et donc la contrition des péchés, mais il inspire une totale identification à Jésus crucifié. Il est évident que dans ce cas-là, même s'il n'y a pas eu le baptême d'eau, le Saint-Esprit étant intervenu directement dans l'âme, on a, pourrait-on dire, sauté les étapes du sacrement de baptême d'eau. Mais également, le Saint-Esprit peut intervenir dans l'âme pour mouvoir le cœur à croire en Dieu et à se repentir de son péché. Ce sont les paroles de saint Thomas. Mouvoir, c'est-à-dire pousser, vous voyez. Faire en sorte que le cœur croit en Dieu et se repente de son péché. Il ne pousse pas jusqu'à l'identification extérieure avec Jésus mort en croix, mais il pousse jusqu'à l'intimité, à l'amitié avec Dieu. Inutile de vous dire que ceci ne peut être fait que par le Saint-Esprit. Nous y reviendrons. Ce dernier baptême, dans lequel le Saint-Esprit pousse à entrer dans l'amitié de Dieu, est souvent appelé le baptême de désir. Mais il faut faire bien attention. Il ne s'agit pas du désir du baptême, il s'agit du désir de Dieu. Baptême de désir d'entrer dans la Trinité, dans l'intimité de la Trinité. Pas le baptême de désirer d'être baptisé. Et encore, ce désir d'entrer dans la très sainte Trinité doit être un désir souverain, c'est-à-dire qui fait regretter les péchés par la contrition parfaite, qui fait aimer Dieu par-dessus toute chose, mépriser le monde et donc rejeter le péché. Voilà pourquoi, autrefois, on appelait ce baptême « baptême du souffle », en latin baptême flaminis, baptême du souffle, c'est-à-dire du souffle du Saint-Esprit. Cette expression, évidemment, est peut-être plus éloquente, plus juste. On pourrait également l'appeler baptême du Saint-Esprit. Évidemment, on est un petit peu gêné parce que les charismatiques ont exagéré la place du Saint-Esprit, l'ont même faussé. Alors le baptême de l'Esprit, chez eux, c'est quelque chose qui permet de se passer du baptême, c'est du protestantisme. Alors on hésite à parler du baptême de l'Esprit. Mais vous avez bien vu, mes bien chers frères, que parler du baptême de désir, ça risque également d'être mal compris. Quel que soit le mot que vous employez, soyez bien persuadés que c'est le Saint-Esprit qui agit dans l'âme. Et il y a un mérite hein, du côté de celui qui reçoit ce baptême, c'est qu'il se laisse faire, il ne résiste pas. N'empêche que c'est bien le Saint-Esprit qui agit. Contrairement à ce que disent les modernistes. Les modernistes disent qu'il suffit du désir du baptême, et même d'un désir implicite, et qu'il suffit d'avoir vécu honnêtement selon la loi naturelle, et que cela équivaut au baptême de désir, parce que celui qui vit honnêtement selon la loi naturelle vit dans l'amour de Dieu. C'est vraiment n'avoir rien compris à la différence entre la vie naturelle et la vie de la Sainte Trinité en nous. Il est évident que les mérites d'une vie naturelle droite ne donnent pas d'entrée dans la Sainte Trinité. Ça, ce sont les mérites de la charité par le Saint-Esprit. Une vie naturelle droite peut éventuellement disposer, c'est-à-dire faciliter, la réponse positive à l'action du Saint-Esprit. Encore qu'on a vu des mécréants, des francs-maçons, des gens qui vraiment s'étaient moqués de Dieu, être convertis d'un seul coup, malgré leur mauvaise disposition, parce que le Saint-Esprit est puissant et que le Saint-Esprit peut très bien vouloir convertir même quelqu'un qui lui est totalement opposé. Donc faites bien attention, vous entendrez très souvent qu'une vie droite suffit pour être sauvé, eh bien c'est faux. Voilà, parfaitement faux. Quant aux enfants morts sans baptême, sans le baptême d'eau, et particulièrement ceux qui ont été assassinés dans le sein de leur mère, on vous dira que Dieu peut toujours les sauver. Non. Dieu a prévu le baptême d'eau, s'ils ne l'ont pas eu, ça peut être le baptême du sang. Alors ça, c'est le cas des saints innocents, avec quand même quelque chose d'un petit peu miraculeux, parce que pour que le baptême du sang sauve, il faut qu'il soit accepté dans la charité. Or, les enfants qui meurent sans baptême, n'ayant pas la raison, ne peuvent pas accepter. Quant au baptême de désir, ben, ils ne peuvent pas l'avoir, puisqu'ils ne peuvent pas entrer par un acte de réponse positive dans l'amitié de Dieu. Ils ne peuvent pas répondre au Saint-Esprit, ils n'ont pas la raison. Les enfants morts sans baptême ne sont pas pour autant malheureux, ils vont dans les limbes, qui sont un lieu. Nous disons les pauvres, ils n'ont pas la vision béatifique. Eux, ignorant le ciel, ne savent pas ce dont ils sont privés, et donc ne sont pas malheureux. Très souvent, quand une maman a perdu un enfant, une fausse couche par exemple, ou que l'enfant est mort avant le baptême, elle demande au prêtre « Mon fils est-il sauvé lorsque vous avez une bonne maman catholique ?» Et les prêtres sont très gênés, ils ne veulent pas faire de la peine à cette maman. Alors ils répondent « Ah, madame, Dieu est tout-puissant, s'il veut le sauver, il peut le sauver. » Mais on ne demande pas ce que Dieu peut faire s'il le veut, on demande ce que Dieu fait effectivement. Et la réponse, il faut être courageux, c'est de répondre « Non, madame, un enfant qui n'a pas eu le baptême d'eau ne peut pas entrer au ciel. » Et on la rassure aussitôt en disant « Cependant, il n'est pas malheureux. » Et on peut même la rassurer encore plus en disant « Le bon Dieu a voulu des petites violettes et des belles roses. » Eh bien, un enfant mort sans baptême, à sa manière, voyez, il nous aide à chanter la gloire de Dieu, à sa manière, mais évidemment, il ne connaît pas Dieu. Saint Thomas d'Aquin pose la question, lequel de ces trois baptêmes, je ne devrais pas dire les trois baptêmes, en réalité c'est un seul baptême sous trois formes. C'est ce que dit Saint Thomas d'Aquin. Parce que l'Écriture sainte nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul baptême. Ah, s'il y en avait trois, ça peut pas aller. Parce que je vous rappelle, hein, ne confondez pas le moyen et le résultat. La chose dans le baptême, c'est l'entrée dans l'intimité du Saint-Esprit et de la Sainte Trinité tout entière. L'eau est un instrument. Et donc on a bien un baptême sous trois formes. Saint Thomas d'Aquin pose la question, lequel a le plus de valeur? Et il répond, bien entendu, le baptême du sang, puisque c'est celui qui configure le plus à la passion. Vous allez me dire, mais le baptême dans le Saint-Esprit configure au Saint-Esprit qui est plus élevé que la passion. Mais oui, mais bien sûr, mais le baptême du sang configure au Saint-Esprit et à la passion. Tandis que le baptême du Saint-Esprit configure au Saint-Esprit et indirectement seulement à la passion. Indirectement par le désir de souffrir avec Dieu. Mais pas directement en versant son sang. Et donc saint Thomas nous dit le baptême du sang est celui qui a le plus de valeur. Mais en même temps, seul le baptême d'eau donne le caractère, et seul il fait entrer dans l'Église visible, parce que le baptême de désir, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, n'étant pas visible, ne peut pas faire entrer dans l'Église visible. Il faut des choses visibles. Quant au baptême du sang, oui, il est visible, mais il ne donne pas le caractère. Et donc, si un martyr échappait à la mort, il faudrait quand même le baptiser. Quant au baptême de désir, je vous en ai parlé à propos d'un mourant, par exemple, mais on peut l'avoir notamment chez les catéchumènes. Il ne faut pas croire que tout catéchumène avant le baptême est déjà en état de grâce, hein, ça serait trop beau, mais beaucoup de catéchumènes, quand ils désirent vraiment entrer par le baptême dans l'amitié de Dieu, Dieu répond déjà à leur désir et leur donne la grâce. Pour terminer ce sermon, je voudrais faire deux remarques. La première, il est nécessaire que vous sachiez baptiser. Vous aurez peut-être des enfants à baptiser, des adultes, que sais-je, est absolument nécessaire. Pour baptiser, il faut trois choses, comme pour tous les sacrements. La matière, la forme et un ministre qui a l'intention. La matière, c'est l'eau. Il faut de l'eau, de l'eau. Si vous avez un doute, par exemple, j'ai connu une infirmière qui se demandait si elle pouvait baptiser avec du sérum physiologique. C'est pas difficile. Vous faites goûter le sérum physiologique à quelqu'un et vous voyez ce qu'il vous répond. Il vous répond, ah, c'est de l'eau salée, ça. Donc c'est bon, c'est de l'eau. De l'eau sucrée, ça va aussi. Du café, on vous répond pas c'est de l'eau, hein, on vous dit c'est du café. Même si le chimiste vous dira qu'il y a très peu de café dans le café. Donc pas de la salive. La salive n'est en rien de l'eau. La boue n'est pas de l'eau, même si elle est très humide. Mais l'eau boueuse est bien de l'eau. L'eau de mer également, etc. Il faut verser cette eau. Il faut verser cette eau. Il ne suffit pas de mettre un enfant sous le robinet. Il faut amener l'eau, apporter l'eau du robinet vers l'enfant. Ou bien alors tremper l'enfant dans l'eau. Il faut dire les paroles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les deux et sont importants. S'il manque le premier, ça n'entraîne pas un baptême invalide. Mais les trois personnes étant égales, il faut dire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, ne vous faites pas trop de soucis là-dessus. Il faut verser l'eau en même temps qu'on prononce les paroles, mais il peut y avoir un léger décalage. Saint Alphonse dit même le temps d'un Je vous salue Marie. Ça fait quand même un bon décalage. Mais enfin, ça serait quand même pas très très correct. Ne vous faites pas de soucis, l'eau coulera toujours. Faites attention aux paroles. Je te baptise au nom du Père, vous versez de l'eau, et du Fils, et du Saint-Esprit, vous avez versé deux fois de l'eau, ou trois fois, c'est encore mieux. Normalement, c'est en forme de croix, ce n'est absolument pas grave si vous n'avez pas versé l'eau en forme de croix. Faites attention aux paroles. Ayez toujours un témoin, justement, pour vous rassurer. Et pour rassurer le prêtre, quand vous viendrez dire, j'ai baptisé tel enfant ou tel adulte, veuillez l'inscrire sur vos registres. Parce qu'il faut l'inscrire, bien entendu. Ayez un témoin. Si vous ne pouvez pas en avoir, ben, vous baptisez sans témoin. Si vous pouvez en avoir un, ayez-le, c'est mieux. Et puis il faut le ministre. Alors ça, ce n'est pas difficile. Le ministre, c'est vous. Ça peut être même un païen. Du moment qu'il a l'intention de faire ce que fait l'Église. c'est-à-dire qu'il veut accomplir la chose sacrée qui lui est demandée par l'adulte qui demande le baptême, ou bien qu'il veut accomplir la chose sacrée que l'Église appelle baptême, si on baptise un enfant qui n'a rien demandé. On ne peut pas baptiser les enfants contre l'avis de leurs parents. Je parle des enfants qui n'ont pas l'âge de raison. Ils appartiennent aux parents, j'ai pas le temps de vous expliquer cela, sauf s'ils sont en danger de mort. En danger de mort, on doit les baptiser. En dehors du danger de mort, non, il faut attendre l'âge de raison. Enfin, si vous avez baptisé un enfant en danger de mort, il faut après ça le déclarer aux parents, même si ça ne vous plaît pas beaucoup. Enfin, une dernière remarque sur l'importance des parrains et marraines. Les parrains et marraines ne sont pas des simples témoins comme au mariage. Au mariage, vous pouvez prendre n'importe quel témoin. Il faut quand même prendre des gens de bonne réputation. Mais ce sont de simples témoins. Là, ce sont des parrains, c'est-à-dire qu'ils apportent une garantie, voire même une suppléance si vous venez à défaillir. Alors on ne prend pas des parrains et marraines pour faire plaisir à des membres de la famille ou pour faire plaisir à des amis. On prend des gens sérieux, parce qu'il y a une attache, une affection du baptisé avec ses parrains et marraines, et ça compte beaucoup. Si vous avez du mal à avoir un parrain et une marraine, il suffit d'un parrain pour les garçons ou d'une marraine pour les filles. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce dernier sermon sur le baptême. Retenez bien donc la profondeur du baptême qui est une œuvre du Saint-Esprit à travers le sacrement. Vivez donc du Saint-Esprit, c'est la conclusion. Vivez donc du Saint-Esprit dans lequel vous êtes entré par le sacrement. Rappelez-vous enfin que par le baptême, nous avons Dieu pour Père et donc nous avons Marie pour Mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.